mes amis, mes bien-aimés, une fois encore, Dieu nous réunit ce soir pour nous permettre de vivre d'une façon toute particulière dans sa présence. C'est le 13 août, un vendredi soir, et ce matin, dans notre étude de l'évangile de Marc, nous avons vu comment, au soir d'un certain vendredi, notre précieux Seigneur fut descendu de la croix et couché dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Se pouvait-il que Jésus soit mort? Soirée de deuil chez les disciples. Soirée d'amers regrets quand tout à coup on s'aperçoit que l'on n'a pas été à la hauteur de la situation. On l'a laissé seul. Seul. Horriblement seul. Alors qu'il avait demandé cette présence humaine de ses disciples, lui qui allait être privé de la présence de Dieu. C'était toute son angoisse, c'était toute son agonie à Gethsémané, de penser qu'il allait être privé de la présence de Dieu, ce qui ne lui était jamais arrivé. Et nous, nous avons tant de peine à vivre dans la présence de Dieu. Tant de peine à nous approcher de lui, à nous éloigner du monde pour être près de lui. C'est presque incroyable. Oh, que Dieu nous donne dans cette dernière soirée où nous apportons ce message. Que Dieu nous donne de comprendre ce qu'il attend de nous. Et que nous puissions dire avec le psalmiste, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. C'est tout mon bien. Comme notre vie serait transformée. Nous allons lire maintenant quelques textes de l'Écriture sainte, car il vaut mieux qu'il vous reste ces paroles de l'Écriture que le souvenir de ce que j'aurais pu dire moi-même. Mais je supplie le Seigneur d'oindre mes lèvres et de posséder mon cœur pour que je ne sois parmi vous qu'un canal laissant passer sa parole de vie. Chapitre 6, les Éphésiens, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Et maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12e, l'auteur de cet épître vient de citer plusieurs noms d'hommes de foi dont nous trouvons l'histoire dans l'Ancien Testament. Et après nous avoir montré ce que la foi avait opéré dans ces hommes qui étaient des hommes de chair, comme nous, soumis aux mêmes passions que nous, il nous dit ceci au chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces hommes dont il est question dans le chapitre précédent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de prendre en main ces derniers instants et de nous parler toi-même avec ton intonation et ton cœur, afin que les uns et les autres, en ta présence, nous puissions recevoir de toi tout ce qui nous est nécessaire dans ces moments, avant la fin de ce camp, pour que nous soyons à la louange de la gloire de ta grâce. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, malgré le dur combat que nous avons mené hier soir contre ces puissances spirituelles de méchanceté qui ne voulaient pas que vous puissiez voir la délivrance que l'Esprit Saint nous apporte en nous faisant comprendre quelle est notre croix, nous croyons que Dieu a pourtant parlé à plusieurs cœurs et qu'il a révélé à certains d'entre vous quelle croix nous avions à porter sur le chemin de la croix. Votre croix, c'est de réaliser la vocation céleste, la vocation spécifique pour laquelle Dieu a mis la main sur vous. Car si vous me dites que vous avez pris une décision pour Jésus, je veux bien m'en réjouir. Mais ce qui me réjouit davantage, c'est que vous puissiez me dire « Le Seigneur m'a saisi. Le Seigneur a mis sa main sur moi. Et je lui appartiens. Et je sais qu'il m'a choisi. » C'est ainsi que Jésus parlait à ses disciples. « Ce n'est pas à vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et si c'est le Seigneur qui vous a saisi, nul ne pourra vous ravir de sa main. C'est fait, ça ne dépend plus de votre décision, le Seigneur a mis la main sur vous. Mais s'il a mis la main sur vous, c'est qu'il a un plan pour vous et qu'il voudrait le réaliser pleinement en vous. Et je demande au Seigneur que vous vous laissiez faire. Voyez-vous, la croix, pour chacun de nous, est différente. Chacun de nous doit connaître quelle est sa croix, quelle est la vocation que le Seigneur nous a donné. Déjà ce matin, je vous ai parlé de la vocation de David, de la vocation d'Étienne, qui se sont laissés faire par Dieu. Et je demande qu'il vous révèle à vous aussi quelle est votre vocation, et que, comprenant cette vocation, vous n'ayez plus que le désir de la voir se réaliser pleinement par le Seigneur en vous. Et avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous mettre en garde. En garde contre les croix que nous fabriquons nous-mêmes. Nous n'aurons jamais besoin d'aller loin pour les trouver. Je voudrais vous mettre en garde contre ces croix que nous inventons nous-mêmes et qui sont des doubles croix parce que n'étant pas dans la volonté de Dieu, ces croix ne nous apportent ni force, ni consolation, ni fruit. Quelles sont, par exemple, les croix qui surgissent de nos craintes de l'avenir? Ces craintes, si vous le savez, sont si déprimantes. Est-ce qu'il y a parmi vous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles et qui sont envahis par ces craintes de l'avenir? Nous n'avons pas le droit d'anticiper ni d'essayer de remplacer la providence par une providence de notre cru. L'avenir, il aura le visage que Dieu voudra. Est-ce que ça vous suffit? L'avenir aura le visage que Dieu voudra. Et ce que Dieu veut pour nous, ça sera toujours le meilleur. c'est absolument certain. Vous n'avez pas d'autre croix à porter que celle de la volonté. Et voyez-vous, quand vous avez saisi cela, la volonté de Dieu, mais ça devient notre nourriture, ça devient notre force, ça devient notre joie. Et l'on peut dire avec Paul que cette volonté, finalement, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. On nous disait, on peut bien dire qu'elle est bonne, mais dire qu'elle est agréable. Bien oui. Et quand vous connaissez le cœur de Dieu, ce qu'il veut pour nous, mais vous pouvez être sûr que c'est agréable. C'est agréable. Même si nous devons souffrir, puisque Dieu veut toujours notre bien suprême et qu'il est plus ambitieux que nous. Alors maintenant, il nous reste à courir la course, débarrassé de toute autre croix. Nous n'avons plus qu'une croix, notre croix qui est de connaître la volonté de Dieu et d'entrer pleinement dans son dessein. Ayant reçu le don de la vie, nous pouvons prendre alors le départ, accomplir le dessein de notre vie et atteindre l'objectif divin. Si vous avez reçu le Seigneur, vous avez la vie. La vie est dans son Fils. Quand on a reçu le Fils, nous avons le don de la vie. Alors commencera la course. Mais il faut, pour courir la course, avoir reçu le don de la vie. Vous l'avez reçu dès le jour où vous avez accepté le Christ. Et si vous avez reçu la vie, c'est maintenant pour vous engager dans la course. Les yeux fixés, comme nous l'avons lu, sur la personne du Seigneur Jésus. Et nous ne devons pas nous laisser distraire par aucune autre chose. Nous avons un but et nous connaissons notre but. Et nous le voyons, ce but. Ce but, c'est quelque chose? Non, c'est une personne. Ce but, c'est d'être rendu finalement semblable au Christ. Et je dirais qu'il y a en général deux groupes de personnes qui se méprennent sur le but de cette course. Vous trouvez tout d'abord ceux qui ne sont pas régénérés et qui essayent de courir avant d'avoir connu la grâce de Dieu, s'imaginant que le but, c'est d'aller au ciel et de gagner son salut. Son multitude, et peut-être avez-vous été un temps parmi ce groupe de gens qui n'avaient pas reçu la grâce de Dieu, qui ignoraient que cette grâce leur était offerte, qui n'avaient pas la vie et qui auraient voulu la vie. Alors, ils avaient comme but d'aller au ciel et ils faisaient toute espèce de choses pour gagner leur salut. Vous trouvez un autre groupe de personnes, ceux alors qui ont reçu le don de la vie éternelle, par grâce, ils nous le disent et le redisent, qu'on est sauvé par grâce, et qui sont résolus à atteindre le but de leur vocation céleste, mais qui n'ont pas été éclairés sur la manière dont ils doivent entreprendre la course. Les deux groupes insistent sur certains éléments et qui ne sont pas en harmonie avec l'ensemble du plan de Dieu. Je dirais que nombreux sont les chrétiens qui ont laissé certains objectifs devenir leur but, au lieu de les considérer comme des moyens d'atteindre un objectif plus lointain, qui est toujours l'accomplissement du dessein de Dieu, de son dessein à lui. Alors vous trouvez des gens, des croyants, qui ont obtenu l'assurance du salut. Est-ce qu'il y en a ici qui ont l'assurance du salut? Mais voilà, ils se sont installés dans l'assurance du salut. Pour eux, l'assurance du salut, c'est le but. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? C'est ce qu'on nous dit, hein. Vous êtes sûr d'être sauvé. Puis, quand vous répondez oui, alors on vous laisse la paix, hein. Installez-vous. Très bien. Vous y êtes, vous y êtes. Alors on s'installe dans l'assurance du salut. Mais c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Heureux êtes-vous si vous avez l'assurance du salut. Mais si vous avez cette assurance, c'est pour mieux courir. Comprenez-vous? On ne s'arrête pas à l'assurance du salut, mais vous avez une multitude de gens qui s'arrêtent là. Et dont l'évangélisation consiste à vous donner l'assurance du salut. Ah, maintenant, c'est en, vous êtes en paix, vous avez l'assurance du salut. Et puis votre vie continue, n'est-ce pas? Dans la médiocrité. Une vie de nouveau en dentiste, mais j'ai l'assurance de mon salut. Hein? Voilà. Et puis, bram, 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 bram. Hein? Et c'est la mécanique. Hein? J'ai l'assurance de mon salut, etc. Hein? Alors. Ça y est maintenant, je vous ai fait la petite musique. Hein? C'est quelque chose d'effroyable. Alors on s'installe dans l'assurance de son salut. Puis on grossit. On attrape une de ses bedaines. On a l'assurance de son salut. Alors mangeons et buvons. Et l'assurance de mon salut. Et puis, il y en a qui ont compris et accepté une vie de séparation. Hein? Oui, ils ont compris vraiment que quand on est au Seigneur, on doit vivre dans la séparation. Et alors, ils insistent surtout sur la séparation. La séparation. Et ils s'installent dans la séparation. C'est vrai ou c'est faux? On est installé dans la séparation. Nous sommes les purs des purs. Nous sommes séparés. Puis il y en a encore qui ont fait l'expérience de l'onction et de la plénitude du Saint-Esprit. Puis, eux aussi, se sont installés là-dedans. Se sont installés. On a la plénitude du Saint-Esprit. Mais regardez, lisez un peu les Écritures, et vous verrez qu'il y a un renouvellement constant. Nous devons passer par un renouvellement constant. On ne s'installe pas. On ne s'installe dans aucune vérité. Les vérités, au contraire, quand elles ont une puissance sur nous, c'est pour nous faire aller plus loin. Si vous avez compris, connu une vérité, ce n'est pas pour vous arrêter à cette vérité. Dans le chemin, cette vérité, eh bien, est une lumière qui éclaire votre sentier, mais qui vous pousse toujours plus loin vers le but. L'apôtre Paul, nous avons lu ça hier, il nous dit qu'il court vers le but. Il ne dit pas qu'il l'a atteint, mais il est dans cette course. Et nous aussi, nous sommes maintenant dans cette course. Comprenez bien, le piège du diable, c'est de vous installer dans une vérité. Et quand les gens n'ont ni but suprême, ni aspiration spirituelle, eh bien, il leur faut du mouvement. C'est la forme que prend alors toute leur activité. Au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de la volonté du Père, vous voyez des chrétiens qui vont d'une chose à l'autre et qui appellent cela marcher. Où ils vont, ils ne le savent pas. Mais ils sont à coup sûr en train d'avancer sur leur voie, mais ne connaissent pas la voie par excellence. Et maintenant, je voudrais dire, mais jusqu'à quel point Dieu se propose-t-il de nous révéler son plan? parce que c'est de cela qu'il s'agit ce soir. Chacun de nous, nous voulons connaître quelle est notre croix. Chacun de nous, nous voulons connaître quel est le plan de Dieu pour nous. Est-ce que Dieu va nous le révéler, ce plan? Ou bien est-ce qu'il faut nous abandonner simplement sans savoir et dire, eh bien, je me confie maintenant dans la providence de Dieu et puis je vais le laisser agir. Mais je ne sais pas où il me conduit. Pensez-vous qu'il en sera ainsi? Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des fils. Et à ces fils, le Père révèle sa volonté. À ces fils, le Père nous révèle sa volonté. Dieu va vous révéler ses pensées parce que vous êtes ses enfants. Et je voudrais maintenant vous rappeler le nom de certains hommes auxquels Dieu a parlé et qu'il a appelé spécialement. Comment leur a-t-il révélé ses pensées? Et ont-ils atteint le but que Dieu leur proposait? Je prends maintenant la vie d'Abraham. Je vais vous donner seulement quelques jalons pour que vous puissiez méditer hors du camp. Abraham, un païen, est appelé un jour par Dieu. Quel âge a-t-il? 75 ans. Il est à Ur de Chaldée et Dieu l'appelle. Chapitre 12 de la Genèse. Un homme qui va vivre vraiment dans la présence de Dieu. Lui qui vivait au milieu des païens et qui était entouré d'idoles. Dieu l'appelle et se révèle à lui. Chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà ce que Dieu lui révèle. Et il dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Mais ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 11 que je vous ai cité, il est dit qu'il partit ne sachant où il allait. Donc, tous les éléments du plan de Dieu ne lui étaient pas révélés sur place. Au moment de son appel, il a la grande vision, il a le grand message que Dieu va faire de lui un peuple et une grande nation, et que ses descendants seront en bénédiction à toutes les nations de la terre. Mais les premiers pas que fait Abraham, eh bien, il les fait dans la foi. Quand vous êtes sauvé par la foi, pour commencer une vie de foi. C'est au moment où vous vous donnez au Seigneur que commence la vie de foi. Vous êtes sauvés par la foi, dit saint Paul, et pour la foi. Une foi sans cesse renouvelée, une foi qui se renouvelle chaque matin, je remets ma confiance dans le Seigneur et je m'attends à recevoir la lumière dont j'ai besoin, mais je dois marcher par la foi. Et jusqu'à ce que nous ayons atteint le dessein de Dieu, le plein accomplissement, eh bien Dieu va faire notre éducation sur ce chemin de la croix. Et si vous vous souvenez de ce qu'a été la vie d'Abraham, depuis son appel, qui s'est occupé de lui? C'est Dieu. Et Dieu lui a fait connaître cette discipline paternelle dont Je vous ai parlé hier. Abraham a dû être repris à plusieurs reprises par Dieu qui l'a corrigé. Et dans certains cas, nous voyons qu'Abraham lui-même a erré, a fait des fautes et qu'il a dû récolter ce qu'il avait semé, n'est-ce pas? Et il a accepté l'humiliation de ses récoltes en reconnaissant que c'était lui qui avait manqué. Vous pouvez voir les manquements d'Abraham. Alors ne vous découragez pas si vous vous constatez que même après l'appel de Dieu, vous avez eu des manquements. Jugez-vous des manquements que vous avez eu dans le manque de dépendance du Seigneur. Quand Abraham a manqué, c'est qu'il n'avait pas consulté Dieu. Comprenez-vous? Et chaque fois qu'il a fait quelque chose que Dieu ne lui demandait pas, il a récolté les fruits de son indépendance. Et c'était toujours mauvais. Quand il est descendu en Égypte, quand Dieu ne lui avait pas dit, simplement parce que les circonstances l'ont poussé à aller en Égypte parce qu'il y avait une famine, eh bien, ça a été extrêmement humiliant pour Abraham. Il a placé sa femme dans une position effroyable, puisqu'elle a été prise et possédée par le Pharaon, et puis Dieu est quand même intervenu en grâce pour Abraham, mais Abraham est reparti d'Égypte, chassé par le Pharaon, et hélas, Sarah avait reçu une servante égyptienne qui est devenue un piège pour Abraham quand ils ont cru avec Sarah que la promesse de Dieu tardant à s'accomplir concernant l'enfant qui devait leur naître, eh bien, ils ont pensé qu'ils devaient aider Dieu. Et Sarah a mis dans les bras d'Abraham sa servante Agar en lui disant, eh bien, l'enfant que elle aura, ce sera le nôtre, puisque une maîtresse avait tous les droits sur ses esclaves. Donc, je vous cite Abraham pour que vous voyez un homme qui est éduqué par Dieu, mais qui a encore besoin des corrections de Dieu, de son Père des cieux, et qui les accepte et qui se soumet. Mais cet homme, avec ses hauts et ses bas, reste quand même constamment dans la présence de Dieu. Présence de Dieu pour s'humilier et présence de Dieu aussi pour recevoir les directions dont il a besoin. Dieu le visite. Une vie dans la présence de Dieu, c'est une vie où l'on est visité par Dieu. Et je vous cite encore un verset que j'aime beaucoup au sujet de la vie d'Abraham. Quand il a été visité par les trois anges, dont l'un était l'ange de l'Éternel, le Seigneur lui-même, et que deux de ces anges s'en vont sur Sodome, il est dit que Abraham resta dans la présence de l'Éternel. C'est au chapitre 19e, au 18e de la Genèse. Il est dit que les deux anges s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et en se tenant dans la présence de l'Éternel, il fait cette merveilleuse prière d'intercession pour sauver Lot, son neveu. Quand on se tient dans la présence du Seigneur, on peut prier et l'on voit le Seigneur agir en puissance pour le salut des autres. Abraham est l'homme qui a aimé la présence de l'Éternel. Méditez sur la vie de cet homme et vous verrez comment Dieu l'a éduqué et vous verrez aussi quelle croix il a portée jusqu'à la fin de ses jours. Mais cette croix ne l'a pas empêché de mourir dans une heureuse
vieillesse, disons-nous.
Je pars maintenant à Moïse. Et je vous demande de repasser dans vos cœurs la vie de Moïse. Cet homme qui n'aurait pas dû vivre, qui était condamné à la mort par un décret du Pharaon. Eh bien, Moïse vit quand même, parce que c'est Dieu qui est le maître. Et malgré les desseins meurtriers du Pharaon qui est habité par Satan, Moïse vit. Sa mère a discerné qu'il avait une beauté spéciale. Moïse était beau pour Dieu. Et la mère le discerne et elle s'abandonne à la providence de Dieu et Moïse est sauvé des eaux. Vous connaissez toute cette histoire. Quand Moïse, après avoir étudié aux écoles égyptiennes, s'en va pour essayer de délivrer son peuple, il est certainement animé par une bonne pensée. Mais comme ce n'est pas encore l'heure de Dieu, et que Dieu ne l'a pas envoyé lui-même, eh bien Moïse échoue complètement. Vous voulez faire quelque chose pour le peuple de Dieu, vous avez les meilleures intentions, et pourtant c'est l'échec. Bien pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas demandé de faire cela. Et Moïse doit apprendre que quand on va soi-même, avec toute notre sagesse, eh bien, Dieu ne peut rien faire avec nous. Moïse tue un Égyptien, et puis, comme la chose est découverte, il s'enfuit. Et il faudra qu'il vive 40 ans au désert. Vous connaissez cette histoire, je n'ai pas besoin d'allonger. 40 ans berger de son beau-père, 40 ans à soigner des brebis pour apprendre un jour que Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. Seulement quand il a 80 ans, alors l'Éternel se présente à lui dans le buisson ardent. Et à ce moment-là, Moïse a fait faillite avec lui-même et il dit à Dieu, envoie ce que tu voudras, mais moi, je ne suis pas capable. Eh bien, c'est justement quand vous avouez que vous n'êtes pas capable, que Dieu va pouvoir commencer avec vous. Essayez de vous laisser instruire par Moïse. La vie de Moïse doit vous donner une instruction. Quand il se croyait capable, ce fut l'échec. Tant que vous vous croyez capable, tant que vous êtes sûr de vous, ce sera l'échec. Il faut que vous passiez par cette humiliation. Il faut que vous appreniez à reconnaître que vous ne pouvez rien par vous-même, malgré tous vos bons désirs, toutes vos bonnes intentions de servir le Seigneur, vous n'arrivez pas. Et c'est quand vous avez été faillite que le Seigneur peut intervenir. Alors, Moïse sera l'instrument dans la main de Dieu. Et vous savez comment, pendant 40 ans, il conduira le peuple à travers le désert. Moïse, l'homme de Dieu, l'homme dont il est dit au psaume 105 que si cet homme ne s'était pas tenu devant Dieu jour et nuit pour intercéder pour ce peuple, pour qu'il ne les détruisît pas, eh bien Dieu aurait laissé ce peuple. Mais Moïse, son élu, s'était tenu à la brèche devant Dieu. Un homme qui a aimé la présence de Dieu, pourquoi ? Pour le salut des autres. Un homme qui est arrivé à dire dans la présence de Dieu, efface-moi de ton livre, mais sauve ce peuple. Voilà ce que nous apprenons quand nous vivons dans la présence de Dieu. La croix de Moïse, cherchez à la discerner. Il marchait comme voyant l'invisible. C'était cela qui le conduisait. Il a refusé les honneurs de l'Égypte, préférant être dans l'opprobre avec le peuple de Dieu qu'être nommé le fils de la fille du Pharaon. Prenez maintenant la vie de Josué. Josué qui était d'abord le serviteur de Moïse. Eh bien, cet homme, Josué, il nous est dit que lui aussi a connu la présence de Dieu. Dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, il est dit au verset 11 que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, donc il vivait dans la présence de Dieu. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. De cette tente sur laquelle il y avait la colonne de nuée, il s'arrêtait à l'entrée de la tente et où Dieu parlait. Josué, l'homme qui a aimé la présence de Dieu, à un tel point que quand Moïse est mort, c'est Josué qui est devenu le successeur de Moïse pour faire entrer le peuple dans le pays de Canaan. Je vous cite aussi David, le roi selon le cœur de l'Éternel, ce jeune homme qui était berger pour les troupeaux de son père et que Samuel fait revenir des champs pour loindre dans la famille d'Isaïe comme roi sur Israël. C'est lui qui remplacera le roi Saül. Mais lisez la vie de David et vous verrez chez David un homme qui doit être éduqué par Dieu. Vous y verrez dans sa vie des hauts et des bas, vous y verrez des manquements, mais le plan de Dieu pour David, envers et contre tout, malgré ses fautes, se trouvera pleinement accompli. David participera à cette discipline du Seigneur. Il connaîtra les châtiments du Seigneur et il les accepte. Relisez même le psaume 51, après qu'il eut commis cette grave faute avec Bathsheba, eh bien, il reconnaît qu'il est digne de mort, il reconnaît son péché. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Est-ce que Dieu a dit maintenant c'est fini pour lui? Il a continué la course. Il a continué la course. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? C'est tout à fait normal quand on est encore dans un monde dans la présence du péché que si nous détournons nos yeux un seul instant du Seigneur, nous tombons. Ça, vous devez vous le mettre dans le cœur. Vous pourriez avoir 70 ans de communion avec le Seigneur. Eh bien, en quelques secondes, si vous détournez les yeux du Seigneur, vous pouvez détruire tout votre témoignage. Ce n'est pas votre piété passée qui va vous garder. C'est un regard constamment fixé sur le Seigneur. Vous avez le but, vous avez comme objectif le Seigneur, à la fin de la course, rejetant sur lui tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, nous courons la course, droit au but. Ne perdez pas de vue le but de la course et vous serez de ceux qui connaissent les délivrances du Seigneur. David, le doux psalmiste d'Israël, a reçu les corrections de Dieu. Et maintenant, après que vous aurez examiné la vie de David et que vous aurez laissé le Seigneur vous instruire par tout ce qui est arrivé à ce David, dont nous avons dit ce matin qu'il a servi au conseil de Dieu et puis ensuite qu'il s'est endormi. La vie de David a servi au conseil de Dieu. Que notre vie à nous serve au conseil de Dieu. Je veux savoir quel est ton conseil pour moi. Et Seigneur, je te demande que ma vie serve à ton conseil. Que j'ai à vivre longtemps ou que je dois partir bientôt, peu importe. Comme le dit l'apôtre Paul, Nous ne faisons aucun cas de notre vie, ni ne la tenons pour précieuse à nos yeux. Ce qui compte, c'est que nous achevions la course. Paul dit, pourvu que j'achève la course. Pourvu que j'achève la course. C'est cela qui est devant nous. Je voudrais que vous méditiez aussi sur la vie d'Élie. Et là, vous y verrez un homme qui vit dans la présence de Dieu. La première fois que nous trouvons le prophète Élie cité dans l'Écriture, c'est dans le chapitre 17 des Rois, du premier livre des Rois, quand il se présente devant le roi impie Achab, que dit-il? D'où vient-il? L'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. C'est un homme qui se tient dans la présence de Dieu. Est-il malheureux? L'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Si vous voulez vraiment être dans le dessein de Dieu, il n'y a qu'une chose pour vous, vous tenir dans sa présence. Constamment. Et vous me direz, mais comment est-ce que ça peut se faire? Bien, vous vous abandonnez. Notre vie, elle est au Christ. Et nous sommes en Christ. Il n'y a pas un moment où nous sommes proches du Christ et un moment où nous sommes éloignés du Christ. Relisez le psaume 139. Où irions-nous loin de sa présence? Nous sommes toujours dans sa présence. Élie, le Tisbite. Élie, qui se laisse faire par Dieu, qui, après avoir été proclamé la parole de Dieu à un roi impie, disparaît de la circulation. Mais Élie, tu es le prophète du Seigneur, tu devrais parler, tu devrais faire d'autres missions. Non, le Seigneur l'envoie au torrent du Kérit. Et là, il le nourrit par les corbeaux, et puis il boit de l'eau du torrent. Et ensuite, quand l'eau du torrent tarit, où Dieu l'envoie-t-il? Chez une veuve. On n'a pas idée. Un prophète aller chez une veuve. Et une veuve qui va mourir avec son enfant parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Mais il obéit. Et c'est justement par lui que cette veuve aura sa nourriture et subsistera, parce que cette veuve a obéi, elle n'a pas gardé le peu de farine qui lui restait et le peu d'huile pour elle, elle l'a mis à la disposition du Seigneur. Alors, elle est bénie, elle et son enfant. Et même, elle verra son fils ressuscité par Élie. Élie, l'homme qui a su vivre dans la présence de Dieu. Élie, vous relirez le chapitre extraordinaire que nous avons dans le livre des Rois, ce chapitre 19e, où nous voyons Élie seul sur la montagne de Dieu et qui entend la voix douce et subtile du Seigneur. Ce Seigneur qui n'est pas dans la tempête, ce Seigneur qui n'est pas dans le feu, ce Seigneur qui n'est pas dans le tremblement de terre, ce Seigneur qui se communique à Élie dans la douceur d'un souffle léger. Que nous soyons de ceux qui entendent la voix si douce du Seigneur. Et vous connaissez la fin d'Élie? La fin d'Élie, c'est de ne pas mourir, c'est de ne pas descendre dans le sépulcre. C'est d'être enlevé. En pleine marche, dans le désert, il est enlevé. Il voit venir à lui des chariots de feu qui descendent du ciel. Et Élisée, qui l'accompagne, voit Élie, son père spirituel, qui monte dans la gloire. C'est Élie qui apparaîtra sur la sainte montagne lorsque Jésus est transfiguré. Et de l'Ancien Testament, de tous ces hommes qui ont vécu dans la présence de Dieu. Vous irez dans le Nouveau Testament et je vous citerai encore une fois Étienne. Cette vie que vous devez étudier, cette vie si courte, mais qui a été toute pour le Seigneur. Et cette vie dont la mort a été le salut pour l'apôtre Paul, dont la mort a ensemencé la vie de ce sol de Tarse. Puis ensuite, après avoir vu ce qu'Étienne a été dans la présence de Dieu, vous verrez ce que Paul nous dit de cette présence de Dieu. Paul, qui avait été élevé au pied des grands maîtres de son temps à Jérusalem, au pied de Gamaliel, eh bien, tout son ministère, eh bien, il ne dit pas qu'il a été capable de l'accomplir parce qu'il avait fait des études au pied de Gamaliel. Il dit que tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu du Seigneur. Ce que je vous enseigne, je l'ai reçu du Seigneur. Et il a dû donc vivre dans la présence de Dieu pour entendre le Seigneur lui parler et lui révéler tout son évangile. Et au sujet de ce qu'il est, bien, que dira-t-il? Il rendra ce témoignage que sa capacité vient de qui? Vient de Dieu. Ma capacité vient de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire cela? Ma capacité, votre capacité, d'où vient-elle? Elle vient de Dieu. Si vous avez une capacité, reconnaissez qu'elle vient de Dieu. Alors, sais-tu que tu n'y reçus? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Nous rendons gloire à Dieu. Et il dira quand il prêche, nous parlons devant Dieu en Christ. Ça, c'est quelque chose. Nous parlons devant Dieu en Christ. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Nous sommes conscients que notre premier auditeur, c'est Dieu lui-même. Et que de toutes nos paroles, nous aurons à rendre compte un jour. Paul vit dans la présence de Dieu sur la terre. Mais vivant dans cette présence de Dieu sur la terre, il soupire après ce moment où il sera dans la présence de Dieu dans le ciel. Loin de cette scène de péché. C'est pourquoi il dit qu'il sera absent du corps et présent avec le Seigneur. Ce n'est pas un drame de mourir. Ce n'est pas une catastrophe. Nous n'attendons pas la mort, mais si nous devions mourir, ce ne serait pas un drame. Ce serait quitter notre corps de mortel pour nous en aller vers le Seigneur. Ce qui est de beaucoup le meilleur, dira Paul. Alors il dit, moi je ne sais pas ce que je dois choisir. Ce que le Seigneur voudra, c'est le meilleur. Il a compris, c'est ça notre croix. Ce que Dieu veut, c'est notre seule croix. Et cette croix donc, il nous est possible de la porter, parce que ce que Dieu veut pour nous n'est jamais une impossibilité. C'est lui qui réalise sa pensée en nous. Et je termine en revenant au Seigneur Jésus lui-même. Vivre dans la présence de Dieu, si vous voulez savoir ce que c'est, contempler la vie de Jésus. Il est l'homme parfait qui, à tout instant, dans son enfance déjà, dans sa jeunesse, dans son ministère, et arrivé à l'âge d'homme, a vécu dans la présence de Dieu. Je répète ce texte que je vous ai cité plusieurs fois quand il parlait aux Juifs et à ses disciples. Il disait, un jour, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Car le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et pourquoi était-il avec lui? Parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Et c'était le bonheur de Jésus de faire les choses qui plaisaient à son Père. Pourquoi est-ce que ce n'est pas notre bonheur? Pourquoi, dès aujourd'hui, les choses qui plaisent au Père ne feraient-elles pas notre bonheur? Est-ce que le monde a tant d'emprise sur nous? Est-ce que Dieu ne nous a pas tellement aimés d'un amour si grand que maintenant, notre bonheur, c'est de faire sa volonté? Notre nourriture, ce serait de faire sa volonté? Notre joie, c'est d'accomplir sa volonté? Oh, qu'elle est bénie, cette croix! Cette seule croix qui nous fait vivre et qui nous délivre de toutes les autres fardeaux. Jésus, Jésus nous a invités à prendre notre croix et à le suivre. Et nous savons où il est allé avec sa croix. Et nous savons ce qui nous arrive si nous le suivons. Nous sommes identifié à lui dans sa mort, qui est symbolisé par le baptême, dans sa résurrection, pour vivre en nouveauté de vie, vivre d'une vie nouvelle. Et je voudrais que ce soir, au terme de ces messages, il vous reste la vision du Seigneur à Gethsémané. Quelle est son angoisse? Son angoisse mortelle, c'est d'être séparé de Dieu. Lui qui est saint, le saint des saints, va être séparé de Dieu. C'est l'angoisse de Jésus. C'est la souffrance de Jésus. Il va souffrir tout à cause de nos péchés. Et nous, nous pourrions encore aimer le péché. Et nous, nous pourrions encore désirer faire notre volonté. Et nous, nous aurions tant de peine à nous détacher du monde. Je demande à notre Père des cieux de nous donner maintenant cet amour qui nous attache définitivement et irrémédiablement à lui-même et à son dessein pour nous. Nous prions. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible que nous puissions préférer les attraits du monde à tes attraits. Tu nous as montré dans ta vie ce que c'était qu'aimer le Père. Et nous voulons te dire ce soir, puisque nous t'avons reçu, que nous puissions aimer notre Dieu de ton amour. Que nous soyons subjugués par cet amour, et que nous puissions traverser le monde sans aimer le monde, qui ne peut rien nous offrir, et que nous puissions au contraire apporter nous-mêmes à ce monde les trésors du ciel. Donne-nous d'être pauvres des biens d'en bas et riches des biens d'en haut, puisque nous sommes déjà héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, que nous sachions apporter ici-bas les valeurs d'en haut qui sont les nôtres. Et que dans ce monde, en désarroi, nous ayons un témoignage. Et que le monde se rende compte que ceux qui vivent dans la présence de Dieu sont des gens heureux, libérés, délivrés, qui connaissent la paix que Jésus donne, la joie que nul ne peut nous ravir, et qui attendent la bienheureuse
espérance d'être bientôt enlevés auprès de notre Seigneur. Père de grâce, continue de nous parler durant les veilles de cette nuit et accomplis maintenant pour chacun de nous ton merveilleux dessein. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance.